Bonjour à tous. À côté de moi, Monsieur Bernardo Bertolucci. À côté de lui, Monsieur Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.
Bonjour à tous. Avant de donner la parole au maestro, je voulais redire au nom du festival, de Gilles Jacob, de moi-même, l'attachement que nous avons à sa présence aujourd'hui pour une initiative qui se fait pour la première fois et qui se fera chaque année, la Palme d'Or d'honneur que nous donnerons à quelqu'un qui ne l'a jamais eue. Et hier, nous discutions avec Lynn Ullmann, qui est membre du jury, qui est la fille, comme vous le savez, de Ingmar Bergman, autre cinéaste n'ayant jamais obtenu la Palme d'Or. Comme disait Tarantino, il y a une liste qui est très belle, c'est la liste des gens qui ont eu la Palme d'Or. Il y a une liste qui est encore plus belle, c'est la liste de ceux qui ne l'ont jamais obtenue. Je voudrais dire notre fierté et le privilège que nous sentons d'avoir Bernardo Bertolucci avec nous. J'espère que cette fierté et ce privilège est partagé par vous tous. Bernardo, à toi. Bon.
Évidemment, je dois remercier d'abord, avant n'importe quel mot, le festival. C'est pas une jury qui m'a donné un prix pour un film que j'ai pas ici, mais c'est le festival, je crois que c'est Thierry et Gilles Jacob, qui ont voulu témoigner que le festival, quand même si on n'a jamais eu rien ici, je suis venu 4 fois, ce prix, je pense que c'est pour tous les films que j'ai fait. Alors, voyez, il y a un film dont j'ai gagné le Palme d'Or aujourd'hui, qui est fait par des séquences de tous mes films. Tous mes films font un film, peut-être.
Voilà.
Alors, c'est une façon de dire pourquoi j'ai eu ce...
Et plus près de ce qui va effectivement passer pendant ce festival, je dois dire que Le Conformiste, en version restaurée, sera présenté à Cannes Classique.
Oui, je ne sais pas qui a choisi un film pour avoir au moins un film à côté de ce Palme d'Or d'honneur. Et je ne sais pas qui a choisi, mais ils ont choisi Le Conformiste. Je suis content parce que c'est un film que peut-être on n'a pas vu pendant longtemps.
Est-ce que tu as veillé sur la restauration puisque le film a été entièrement restauré?
Non, je me confie, je me donne complètement aux restaurateurs des films. Là, comme à Bologne, ils sont formidables. Il y a un institut de restauration où va tout le monde, même des Américains. Par exemple, le film de Scorsese. New York, des films. Ils vont faire les restaurations toujours à Bologne. Bon, Bologne a restauré Le Conformiste. À ce point, je me demande si quelques cinémathèques, au lieu de restaurer mes films, voudraient restaurer moi. Ça serait génial. Le Conformiste, pourquoi? C'est parce que c'est l'histoire d'un homme qui se sent autre, différent de tout le reste du monde. Donc, ce qu'il veut faire, sa tension, c'est d'être comme tous les autres, donc se conformer à tous les autres. On est dans les années 30 en Italie, les autres sont tous fascistes. Donc, le conformiste veut être un fasciste pour être comme les autres. Ecco, c'est ça qui est intéressant.
Alors, nous allons tout de suite prendre des questions. Une question, monsieur, et une question, madame.
Bonjour, monsieur Bertolucci, Gdaillé Télévision Belge. C'est une question toute simple. Vous dites que vous êtes venu 4 fois. Justement, avec le recul, avec la distance, on sait bien que la mémoire fait un tri sélectif. Alors, quelle est justement les plus belles images qui restent de ces visites cannoises?
Toutes les fois, il y a eu... j'étais très gratifié. La première fois, c'était en 64 avec... Prima della rivoluzione, mon deuxième film, le film est passé à la semaine de la critique. Alors j'aime beaucoup l'institution qui s'appelle semaine de la critique, parce qu'il y avait mon premier film. Les Italiens l'ont massacré, les critiques italiens, tué de façon vraiment même un peu trop. Et les Français ont bien aimé. Donc, mon idée d'être un metteur en scène français a été prouvée par le fait que Prima Rivoluzione à Cannes a eu de magnifiques critiques françaises. Puis j'étais là, et c'était une idée de Gilles Jacob avec Novecento pour une journée qui était complètement dédiée à Novecento. Il y avait l'après-midi, il y avait la première partie, et après le dîner, il y avait la deuxième partie. Ça fait 5h10. Et c'était un film que je me disais, il ne faut pas que ce soit en compétition parce que c'est un film un peu monstre qui dure 5 heures, qui a des acteurs hollywoodiens, qui a... Alors je me disais, ce n'est pas juste d'être en compétition avec d'autres films, peut-être petits et comme ça. Je me suis dit, je suis con parce que le président du jury était Costa Gavras. Il a, après le film, il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas en compétition? On t'aurait donné la Palme d'Or. Bon. Il y a cette idée, un peu cette sensation, dans cette occasion si gratifiante, et aussi, surtout dans l'idée que le festival de Cannes, chaque année, va donner un prix d'honneur. Il y a la sensation comme si le festival voulait donner une sorte de, comment dirais-je, de récompense
pour l'ensemble d'une œuvre.
Pour l'ensemble d'une œuvre, mais comme on dirait, bon, les jurys n'ont jamais donné un prix. Bon, voilà, on va, le festival même va donner un prix. Bon, ça c'est.
Quel effet ça vous fait, puisque vous venez de parler de 1900, de voir que cette année, le président du jury est un de vos acteurs de 1900.
Il semble que De Niro va me donner cette palme d'honneur ce soir. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est inventé par les journalistes. On verra tout à l'heure. Mais ça serait bon, ça serait bien, parce que quand Bob est venu faire Novecento, on était tous très jeunes.
Nous le sommes toujours.
Hein?
Nous le sommes toujours.
Et ça dépend du point de vue. Et ça dépend des miroirs, surtout. Bob est très laconique. Il ne parle pas beaucoup. On va voir ce soir s'il va dire quelques mots. Ça serait un miracle. Je sais des journalistes qui essayent de faire des entretiens avec De Niro. J'ai rappelé, quand on faisait 1900, il sortait des chambres où il faisait désespéré parce qu'il n'avait pas sorti un mot. On va voir.
Madame.
Bonsoir, c'est de la Russie. Monsieur Bertolucci.
Attends. Le micro marche là?
Marche?
Oui.
Moskovski, Komsomolets de la Russie. Monsieur Bertolucci, dans les années 80, dans la période soviétique, votre film Dernier Tango à Paris était dans la liste interdiction et les gens qui sont passés à prison regardant ce film. Mais, qu'est-ce que je voudrais vous dire? On a regardé votre film, même cette menace d'interdiction.
Je n'ai pas compris.
Un de tes films avait été interdit en Russie et il y a un certain nombre de gens qui sont allés en prison pour avoir vu ton film et elle en est contente, elle en est...
Non,
mais on a regardé ce film. Ah ouais, c'était quoi le film?
Le dernier tango.
Ah oui, oui, oui. Ah. Ce film a eu un destin un peu... comme ça, très dynamique, disons. Ouais, je ne sais pas, intéressant. C'est... Bon.
Monsieur, go ahead.
Hi, I'm Dennis Yu from Hong Kong Cable TV. My question is, like 20-something years ago, 25 years ago, you made the movie The Last Emperor, and you were one of the very first Western directors making films about Chinese history and cultures. So like 25 years later now, are you still interested in something about the Chinese culture and make a movie about it? Or how do you see the Chinese cinema now?
Ça a été peut-être la plus extraordinaire aventure de ma vie, aussi parce que je ne connaissais pas du tout la Chine. Et je suis allé comme vraiment en une sorte de... avec des témoins. Et c'était la Chine entre 84 et 86, quand je préparais et puis tournais Le Dernier Empereur, Le Dernier Empereur. Et j'ai vu la Chine, I've seen China changing. Bon, je dois parler français.
Tu parles ce que tu veux.
I've seen China changing in these 4 years, from 84 to 86, 7. In the street of Beijing, in 4 years, little by little, I've seen a smile coming, like on the faces of the Chinese. There was something, they were very stiff at the beginning, little by little. It was the time of Cao Ziyang, who was the secretary of the party, the time I was there, and it was incredibly progressive and liberal. The secretary of the party, the prime minister, who allowed Tiananmen to happen. So he was a great man. We also had a kind of privilege because he allowed us to enter in the Forbidden City with the cameras, to enter in the pavilion of the enthronement of the throne of the emperor. Well, what can I say about the Chinese culture? It's the most extraordinary, ancient China. When I was speaking to a Chinese, I was thinking, this guy is 5,000 years old. And in fact, the Chinese they are very smart. We can all see that.
I think part of the question of the gentleman's question was
about the Chinese cinema.
Are you still very much interested in Chinese culture? Do you still read Chinese? Are you still keeping in touch with Chinese culture?
Even if I wasn't, China would have been in touch with me, because nobody can stop the Chinese. And I love Chinese cinema. You know, when I was shooting The Last Emperor, I asked the question to somebody, is there a nouvelle vague in China? It was 84, 85. And somebody told me, yes, there is a kind of nouvelle vague. It is the school of the Xi'an studio. Xi'an was the place where Chiang Kai-shek, Zhang Zhimou, and the other great Chinese directors we knew are coming from. So I did a little party and dinner for all the Chinese Nouvelle Vague. Before shooting the part with the Cultural Revolution in the streets, where the Red Guards a bit insults and they beat the last time, the old man. And it was very interesting because I've seen really new Chinese cinema being born. It was really... they were all coming... Chiang Kai-shek was an actor in The Last Emperor. He had a part. He was very tall, very handsome, and he was a captain of the guards.
Question. Qui a le micro là? Monsieur, go ahead.
Good afternoon. My name is Pablo Scholl from Clarín newspaper from Argentina. Talking about the future, can you tell us about your next project in 3D?
Oh, yeah. So, till a year ago, in the last 5-6 years, I was sure I wouldn't have done any more movies. My condition, which everybody can see, made me think it's the end. Then, a year ago, I started to realize that even on a wheelchair, I could imagine my, especially my dolly movements. I'm on a constant dolly movements. And my movies, if you look at my movies, they're always on movements, on dollies. You know? That's why I've been punished like that. And I read this book of Niccolò Ammaniti, Io e Te. I liked it. It all happens in a basement, in a cellar, just two characters, a 14-year-old boy and his half sister, 25 years old. And then I had this idea. I thought, that because I've seen Avatar, and I loved Avatar, and I was fascinated by the 3D. And then I started to think, why the 3D is considered good only for horror or science fiction or this kind of movie? I thought, if 8.5 by Fellini was in 3D, wouldn't it be great? Or the other film I really thought could have been in 3D was Bergman's Persona. Would have been fantastic, this movie or close-up of the two actresses.
So we. Gonna...
So I started to do a test. And then I saw Pina by Wim
Wenders
in 3D about Pina Bausch, Ballet. And then I haven't seen, but I know there is a Herzog film in the Cave in Ardèche.
Yeah.
And I thought, strange that Wim and Herzog and myself, three European directors, they are a bit younger than me, but same, coming from the same kind of school of thought, are all interested, attracted by 3D.
So we're going to have one location, two characters, 3D.
3D.
Fair enough. Ma'am?
Sorry, sur les films, c'est de plus en plus important, mais je suis curieuse. Je veux savoir si tu aimes revoir les films que tu as beaucoup aimés dans le passé, les revoir avec des yeux différents, et si tu as peur que le film ne te donne plus les surprises qui t'ont donné la première fois.
Les films qu'il a réalisés ou les films
non,
qu'il
les
a
films,
vus
les films en général, les films qu'il a aimés, les films ouais. qui l'ont formé.
Bon, il y a des films qui vieillissent, il y a des films qui vieillissent bien, il y a des films qui vieillissent très mal. Ça, c'est pas tout la même chose, il n'y a pas une règle. Alors... C'est pas comme le vin, vraiment. C'est pas toujours sûr que le passage du temps fasse du bien au film. Mais, je sais pas, je trouve que les films, quand même, sont toujours sur la réalité autour de nous, autour de la caméra. Donc, il y a toujours quelque chose de très très lié à la réalité où on vit. Le cinéma vieillit, peut-être cette réalité vieillit aussi.
Les Enfants du Paradis, ça reste quand même très beau.
Les Enfants du Paradis, c'est un film qui est beau, magnifique, et puis on le revoit, et je ne l'aime plus, et puis je le revois, je l'adore. C'est une fois je l'aime et une fois je ne l'aime pas.
D'accord. Monsieur.
Mr. Bertolucci, the directors from the generation of Brazilian Cinema Novo refer to you as a friend, as a colleague. What could you tell us about your experience with the guys from Cinema Novo, and what could you tell us about the idea of Nuovo Cinema, the Italian Nuovo Cinema?
Cinema Novo, if somebody doesn't know, it was the cinema from the mid-60s for 10 years or more in Brazil. I was friends with many of the directors, and especially with Glauber Rocha, who was an incredible volcanic mind, incredibly creative and energetic. And we have been together in many occasions. There was a... With the Glauber Rocha, we were calling our movies Miura. Miura, because nobody enters in to see our movies. So Miura are these bulls, the most powerful bulls in the bullfighting. They are so compact. We were saying with Glauber, not even a mosquito can enter in the asshole. They are so... straight. So our movies were Miuras because no viewers would enter in the theater to see them. Our movies were very compact. And I don't know if everybody's interested in Brazilian experience. Now, let's move to Italian, Cinema Nuovo Italiano. Yeah, I think it's a good moment. I can feel... Italian cinema had always had a kind of heavy heritage from neorealismo. So there's always the repetition of a certain kind of formula with the social, always the social identification of the characters, etc. The new Italian cinema, let's talk about Garrone or about Paolo Sorrentino, you will see his movie here, incredibly visionary, and Crialese. What I like in them is that, and it's something new for the Italian cinema, they are working very much on the structure, on the language, on things that are not only the story that they are telling, but there is in all these new directors a kind of knowledge and knowledge of cinema, of the position they have in cinema. We can always go with the old André Bazin question, qu'est-ce que c'est le cinéma? And when in a movie I feel this question, I'm very happy. And in the new Italian cinema there is this kind of
energy and drive.
And yes, and the desire to understand, réfléchir sur le cinéma.
Sir, I'm afraid this will be the next to last question. The last question will be the person over there.
Brian Johnson from Maclean's Magazine, Mr. Bertolucci. Tonight we're opening with, the festival's opening with Midnight in Paris. You once made a movie with Paris in the title, Last Tango in Paris, a very different kind of story of an American in Paris, very different kind of American. Somebody asked you about movies. You talked about how movies age well, some movies age well, some movies don't age well, and you talked about other movies. I'm kind of curious to know how that movie in particular has aged in your imagination. Have you seen it recently? What are your feelings? What are your emotions about Last Tango in Paris at this point in time?
I remember that for a year, I completely, in a way, lost my mind. In the sense that the movie was such a hit everywhere in the world that even if you want to be with your feet on the ground, that kind of success takes you around and makes you a bit mad. I've seen other directors, colleagues and friends by me, passing moments of a kind of incredible sense of omnipotence and power.
Names.
I remember a very famous American director in San Francisco telling me, I am a top of, Mom, I'm at the top of the world. I mean, I don't know if everybody remembers James Cagney in White Heat. Mm-hmm. It was like that. I am at the top of the world. Anyway, the movie itself, I think, is aging quite well. I mean, doesn't need makeup to make it acceptable, seeable today. I think thank you to the incredible presence of that one. Brando gave me so much for that film. So much because I think he didn't know how much he was giving me. And then at the end of the shoot, he didn't want to see me anymore for a long time because he realized that he had been kind of too open with me. It was... I didn't know why. I think he was... he was doing a movie as he's never done before. A movie where he's... own material, his memories, what happened to him, was coming out in a way. Not as details, as not, but the essence of his nature.
We'll take one last question. Go ahead, sir.
Hello, Matteo Sancho from Spain, and I would like to ask Bertolucci about sexuality in your creative world, because it has made a very important role, a very important and complex world, from the conformista to the dreamers. So what's your relationship with sexuality in artistic terms now?
Thank you. No offense, you have 30 seconds to answer that.
So it will be a quickie. I think that it's... I was, when I did Last Tango in Paris, I was very much seduced by the books of Georges Bataille. I was reading Georges Bataille, Le Bleu du Ciel, I was reading Ma Mère, and I was very much into that kind of... You know, there are strange elective affinities in cinema. For example, there is another director, my age, a little bit older, who lives in Japan, who did a movie more or less in the same time as Last Tango in Paris, L'Empire des Sens. And we talked, we recognized each other. We were both, we had both the desire to talk about sexuality and sensuality as cinema has never done. And he did L'Empire des Sens, L'Empire
of Sens, in the Realm of the Senses.
The Realm of the Senses. And we became friends, we talked a lot, and we discovered there was a scene that we both wrote in the script but never shot. It was the man and the woman after a long time saying, let's not open the window, let's not open the door anymore, let's keep our smell here with us. And also Nagisa has written a scene like that, but we didn't shoot it. I didn't shoot, he didn't shoot. I think it's difficult to represent smell in a movie.
Without smell-o-rama, it's a bit difficult.
The smell around.
There you go.
I want to thank you very much for being here. I don't have a movie with me, so you don't have anything fresh to write about. But thank you for being all of you.
Thank you very much.